Nous accueillons Frédéric Vidal. Bonjour, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Depuis plusieurs semaines, les blocages d'universités se multiplient dans toute la France en signe de protestation contre la loi orientation et réussite des étudiants. Les étudiants bloqueurs dénoncent la sélection déguisée derrière cette loi adoptée le 15 février 2018 à l'Assemblée nationale. Cette nuit, la Sorbonne a été évacuée. Du coup, ce matin, une archive s'imposait. Elle concerne la Sorbonne, mais le 22 mai 1968, à l'époque, le Canard enchaîné titrait « Le gouvernement a perdu le contrôle de ses facultés ».
Sur le front universitaire, la semaine avait commencé dans le feu des discussions. La Sorbonne, que les étudiants avaient occupée après le départ des forces de police, était devenue le forum permanent de la remise en cause de l'université tout entière. Sur place, le ravitaillement s'est organisé, on a improvisé des popotes dans les couloirs, au demeurant, on se nourrit de peu et on ne dort guère. L'essentiel, c'est la contestation, le dialogue. Dans les amphis, les commissions de travail, étudiants et enseignants réunis siègent en permanence. Réforme de l'enseignement, autonomie, modification des examens sont les points névralgiques des débats.
Ça nous rappelle quelque chose, Frédéric Vidal ?
Bonjour. Oui, c'est toujours très émouvant d'écouter ces archives où l'on voit que les préoccupations des étudiants comme des enseignants à l'époque, c'était plus d'autonomie pour les universités, c'était plus de facilité pour les filles et les garçons de se rencontrer, c'était repenser à un modèle universitaire. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une loi qui permet de supprimer le tirage au sort pour les lycéens et qui permet de mieux accompagner ces lycéens lorsqu'ils rentrent à l'université, notamment en première année. On est finalement sur des sujets qui sont totalement différents.
Et la crise que nous traversons, elle, est-elle similaire ? Est-ce que l'on est en train de revivre un autre mai, un mai 50 ans plus tard, mais un mai finalement tout aussi colérique, tout aussi important ?
C'est difficile de vous répondre. Moi, j'avais 4 ans en mai 68 et je pense que la très grande majorité des étudiants n'ont de mai 68 que quelques images ou quelques récits qu'ils ont pu lire de ci, de là. Moi, ce que j'observe, c'est que aujourd'hui, la très grande majorité des 1 600 000 étudiants inscrits à l'université souhaitent passer leurs examens et que nous sommes dans une période où, effectivement, il y a une tentative d'instrumentalisation de ce qui se passe dans les universités, comme on a pu le voir à l'automne avec d'autres sujets.
Instrumentalisation, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que, moi évidemment, comme je suis professeur des universités, j'ai côtoyé des étudiants toute ma vie, et donc je sais qu'on n'a pas besoin d'aller, en tant que politique, dans les amphithéâtres, faire des explications de texte pour les étudiants, surtout lorsque ces explications de texte sont fausses, hein. On parle de supprimer la compensation, il n'en est pas question. On parle d'interdire le redoublement, ce qui n'en est pas question non plus. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, qui n'ont rien à voir avec le texte de loi, qui ne sont prévues nulle part, mais dont on sait que ce sont effectivement des irritants pour les étudiants.
Mais était-ce une bonne idée de faire évacuer la Sorbonne cette nuit, Frédéric Vidal ?
Alors, c'est le rectorat de Paris, hein, cette nuit, qui était effectivement...
Oh, mais votre opinion ?
Occupé par des étudiants. Moi, je suis toujours dans la même opinion, à savoir que ce sont les responsables des lieux qui estiment la dangerosité de ce qui est en train de se dérouler et qui donc, normalement, doivent exercer le devoir de police, doivent maintenir l'ordre public. Et lorsqu'ils ne se sentent plus en capacité de le faire, lorsqu'ils estiment qu'il peut y avoir des risques, eh bien, ils font appel aux forces de l'ordre. Je dois dire que ce qu'on a vu ces derniers temps, à savoir des assemblées générales qui pouvaient dégénérer à cause de petits groupes violents, dont une fois de plus je ne suis pas complètement persuadée que ce soit des étudiants, n'incite pas à laisser les étudiants la nuit dans les amphithéâtres.
Vous ne pensez pas que cela contribue à durcir le mouvement ? Autrement dit, à chaque fois qu'il y a des interventions policières, on voit bien qu'il y a une augmentation de la colère chez les étudiants, Frédéric Vidal. Est-ce que c'est une bonne stratégie ?
Il faut toujours, je pense, réagir en fonction des circonstances. Et quand on voit les salles de serveurs détruites à Montpellier, ou quand on voit des bâtiments avec des personnels qui travaillent à l'intérieur caillassés à Nantes, c'est vrai que la montée de la violence qui est observée sur les campus n'incite pas les présidents d'université à la sérénité.
On écoute les propos d'Emmanuel Macron hier, c'était aux 13h de TF1, au sujet des étudiants.
qu'il y ait du débat, c'est une très bonne chose. Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels. Hein, les professionnels du désordre dont parlait Michel Audiard. Donc, les professionnels du désordre, ils doivent comprendre que nous sommes dans un état d'ordre. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République.
Un état d'ordre, ce sont des propos très durs du chef de l'État, Frédéric Vidal.
Oui, mais quand on voit que sur ces derniers jours, il y a eu des centaines de milliers d'euros de dégradation dans les établissements, avec des outils de travail dégradés, à la fois pour les étudiants et pour les personnels. On annonce ça, les serveurs de Montpellier 3 sont détruits, mais ça veut dire que derrière, il n'y a plus de système de paye, il n'y a plus de système d'information. Et c'est extrêmement grave, à la fois pour les étudiants et pour les personnels. Donc, évidemment qu'il faut faire en sorte que le débat ait lieu, mais le débat c'est un échange, c'est pas uniquement des gens qui prennent la parole et puis qui ensuite cassent. Ça c'est pas du débat et ça c'est pas l'université.
Mais vous êtes un professeur, vous avez dirigé une fac, vous savez également comment on parle aux étudiants, vous savez que ce type de discours a de fortes chances d'être mal reçu, peut-être même a-t-il été formulé pour cela.
Je crois que ce que le président a voulu faire, c'est vraiment rassurer, une fois de plus, les centaines de milliers d'étudiants qui sont très inquiets sur la tenue de leurs examens. Et là aussi, ça se dit en une phrase. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les étudiants qui doivent obtenir leur licence cette année, qui commencent à postuler pour des masters et qui finalement n'auront pas leurs examens? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ça veut dire pas de poursuite d'études pour tous ces jeunes. C'est pour ça que c'est très important que les examens soient maintenus. Et les présidents d'université le souhaitent.
Vous parlez beaucoup des étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants qui sont inquiets. Il y a aussi les professeurs, les maîtres de conférences, le personnel des universités, ce qui témoigne finalement d'une inquiétude qui dépasse ces professionnels du désordre, comme les appelle Emmanuel Macron.
Alors, effectivement, vous avez raison de rappeler que les personnels, les enseignants et les enseignants-chercheurs, avec les représentants desquels d'ailleurs, toute cette réforme a été construite, hein, puisque je rappelle les plus de 110 réunions qui se sont tenues cet été. Je rappelle que le CNESER, qui réunit donc tous les représentants des organisations représentant des personnels et des étudiants, a validé le texte de loi. On a beaucoup travaillé dessus, on a pris les amendements, et que ensuite le débat a eu lieu au Parlement. Donc moi j'entends ceux qui font partie de syndicats qui était opposé à ce texte, mais je rappelle quand même que le CNESER l'a voté favorablement et qu'une fois de plus, il faut respecter la démocratie, il faut respecter les avis qui sont demandés et qui sont donnés, il faut respecter le vote du Parlement. Donc j'entends tout à fait. J'entends tout à fait aussi qu'ils disent qu'il n'y a pas de moyens. Je leur rappelle qu'en projet de loi de finances, on a rajouté 25 millions d'euros sur le budget, qu'on a rajouté 10 millions supplémentaires en gestion.
On va revenir sur les questions budgétaires.
On a 30 millions de plus qui ont été donnés aux universités.
On va
65 millions en tout.
Oui, mais alors il faut contextualiser
cette réforme
ces chiffres,
du
Frédéric Vidal. Il faut contextualiser ces chiffres. Oui. Le budget de l'éducation nationale du supérieur, c'est 13,4 milliards d'euros. 25 millions, c'est une minuscule goutte d'eau.
Oui, bien sûr, mais dans ces 13 milliards d'euros, vous avez 82% qui constituent la masse salariale. Donc si vous regardez ce qui reste et si vous regardez ce que ça fait, 65 millions d'euros uniquement pour l'entrée à l'université, vous voyez que jamais un effort identique n'a été fait.
Alors peut-être qu'aucun effort identique n'a été fait parce que effectivement, depuis 2008, j'ai regardé précisément les chiffres, l'université se paupérise, mais avant de parler de chiffres, et ces chiffres sont importants, effectivement, il faut en parler, Frédéric Vidal, il y a malgré tout des professeurs qui ont signé une pétition, il y a un appel de ces professeurs pour que soit retirée aujourd'hui cette mesure qui finalement fait débat, la loi. Or, peut-être il faudrait que vous rappeliez, Frédéric Vidal, votre vision de cette loi et que vous répondiez à cette inquiétude qui s'exprime aujourd'hui.
Oui, très volontiers. Donc, il faut repartir de la raison de la concertation. C'est l'année dernière, plus de 65 000 étudiants qui ont été tirés au sort. L'objectif, c'était donc de faire en sorte qu'on ne tire plus au sort les étudiants. Et l'objectif, c'était aussi qu'on ait plus de 30% de réussite en première année de licence. Et tous les gens qui ont enseigné en première année savent de quoi je parle. On démarre avec des amphis pleins et à partir de janvier, les amphis sont vides. Donc, c'était vraiment cet objectif-là, c'était de donner plus, de donner mieux, d'accueillir plus et de faire en sorte que on s'inscrive à l'université et surtout qu'on y réussisse. Donc ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que nous demandons maintenant aux enseignants et aux enseignants-chercheurs, aux équipes pédagogiques de première année, au personnel qui accueille les étudiants, de regarder quel est le profil de ces étudiants, de manière à ce que, si c'est nécessaire, ils puissent avoir des cours personnalisés, on puisse leur affecter un tuteur, on puisse les aider à réussir. Après, j'entends bien que on me dit, mais il n'y a pas de place supplémentaire dans l'université, donc on va être obligé de les refuser. Moi, je dis simplement que on a déjà financé 19 000 places supplémentaires, qu'on a, et je l'ai dit...
19 000 places, c'est très très peu par rapport à la masse des étudiants.
Mais non, parce qu'il y a un peu plus de 25 000 bacheliers supplémentaires cette année, que moins de 50% des étudiants choisissent l'université, et que donc, lorsque l'on met 22 000 places, ce qui était initialement prévu, mais j'ai dit qu'on pouvait évidemment en mettre autant que nécessaire, ça veut dire qu'on est en capacité, pour la première fois, de mettre, là où les étudiants le souhaitent, plus de places dans les universités.
L'UNEF dit qu'il va y avoir 300 000 étudiants sur le carreau. Vous parlez de 19 000 places, donc on voit bien qu'on a un problème de cohérence des chiffres, mais au-delà de ça, l'idée que vous poursuivez, Frédéric Vidal, c'est de dire que finalement, le tirage au sort n'est pas une manière d'orienter les étudiants. Bon, jusque-là, on vous suit. Et ensuite, on entend ces profs qui vont se retrouver avec une masse de dossiers qu'ils ne vont pas être en mesure, sur le plan humain, de classer. Et cette inquiétude-là, elle va déboucher nécessairement sur un autre processus de sélection au hasard, non ?
Alors moi, évidemment, tout ce que je peux vous dire, c'est que les professeurs que je rencontre et les personnels que je rencontre sont au travail et me disent que pour eux, tout va bien se passer.
Bon,
et c'est ce que disent la majorité.
Voilà. Mais...
on ne rencontre pas les mêmes. Et puis ensuite, ce que je voudrais rappeler, par exemple, c'est que lorsque, au travers de Campus France, on reçoit 70 000 dossiers à examiner pour les entrées en master, on sait les gérer. Lorsque, au sein des universités, les IUT reçoivent des milliers de dossiers pour quelques centaines de places, on sait le gérer. Alors pourquoi est-ce que on ne serait pas capable de prendre en charge, de s'occuper et de veiller au bon accueil des bacheliers à l'université, alors qu'on le fait dans tout un tas d'autres endroits, et on le fait à l'université pour tout un tas d'autres étudiants? Où est le problème,
ensuite, il y a un autre problème, puisque on ne va pas continuer à dire que l'on n'entend pas la même chose à ce sujet, Frédéric Vidal. Il y a un autre problème qui est le contenu en fait du dossier qui est fait par ces étudiants pour postuler. Alors par exemple, il y a une lettre de motivation. Du coup, maintenant, il y a des coachs qui se sont montés, qui vont être rémunérés pour écrire des lettres de motivation. N'est-ce pas une manière de sélectionner très injuste, parce qu'il va y avoir un biais social là-dedans?
Alors, une fois de plus, il ne s'agit pas de sélectionner. Ensuite, la lettre de motivation, il faut la prendre, non pas comme une lettre de motivation, comme on pourrait l'entendre, pour un emploi. Il s'agit juste, en quelques mots, que le lycéen dise pourquoi il choisit cette filière. Et pourquoi on a demandé ça ? Parce que l'été dernier, au téléphone, on avait des bacheliers qui nous disaient « Finalement, j'ai bien réfléchi et je ne veux pas du tout aller là où j'ai été affecté. Est-ce que vous pouvez me changer ?» Et donc ça aussi, c'est des dizaines de milliers de bacheliers qui ont été traités à la main, au téléphone, pour qu'on essaye de finalement leur trouver quelque chose qui leur plaisait. Lorsque vous devez vous poser quelques minutes pour écrire la raison pour laquelle vous voulez faire ça, si rien ne vous vient, c'est qu'en fait vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Et je voudrais aussi rappeler quelque chose, c'est que, évidemment, on parle de la loi, mais il faut regarder le plan étudiant dans son ensemble. Ce plan étudiant, il prévoit une deuxième phase. Nous avons commencé la concertation. Les syndicats qui sont contre la loi ont d'ailleurs quitté la table. Et c'est la reconnaissance de l'engagement des enseignants-chercheurs, à la fois dans l'indemnitaire, mais aussi dans les carrières, et la reconnaissance de façon générale des personnels. Et moi, je ne comprends pas que des syndicats quittent la table des négociations au moment où on parle de ça.
Peut-être qu'il y a également une autre question liée effectivement à un mot. Vous ne voulez pas prononcer le mot de sélection. On voit bien qu'il y a toutes sortes de périphrases dans le débat pour ne pas l'utiliser. Et pourtant, c'est vraiment l'œuf cube, votre histoire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre un nombre bien inférieur d'étudiants par filière, puisque les filières sont en nombre aujourd'hui trop limitées. Pourquoi ne pas employer ce terme, Frédéric
mais
Vidal?
Mais parce que si c'était de la sélection, je le dirais, et cela n'en est pas aujourd'hui dans les universités, enfin pas aujourd'hui, à la rentrée universitaire 2017, il restait 100 000 places dans les universités. Donc on n'a pas de problème de place dans les universités.
Mais pas là où les étudiants veulent aller, c'est tout le problème.
Eh bien c'est bien pour ça que nous avons d'ores et déjà rajouté 19 000 places sur la base de ce qui s'est passé l'année dernière. Et si l'année dernière ces 19 000 places avaient existé, alors on n'aurait pas eu les problèmes qu'on a eus. Et nous sommes prêts à en rajouter encore sur la base de l'analyse des demandes qui maintenant sont faites.
Alors concrètement, où est-ce que vous voudriez en rajouter, puisque on manque de places en STAPS, on manque de places en psychologie, en droit, dans les filières
en BTS,
d'économie,
en IUT, absolument.
Qu'est-ce que vous pouvez faire à cet égard concrètement, parce que 19 000 places, ça reste malgré tout assez abstrait, Frédéric Vidal.
C'est pas qu'est-ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que j'ai déjà fait. En fait, les recteurs ont parlé avec les présidents d'université. Ils ont comparé les chiffres de l'an dernier, ils ont regardé où est-ce qu'il aurait fallu 100 places de plus ici, 50 ici, ouvrir une antenne de STAPS là, et ça a été fait comme ça. Donc les présidents d'université, les doyens et les recteurs ont fait remonter au ministère un état des lieux des besoins pour que la rentrée 2018 se passe bien, et nous avons financé ces besoins. C'est ça, ces 19 000 places.
Ces 19 000 places, si elles sont très largement insuffisantes, j'ai dit si, hein. Je ne veux pas faire de pari sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée prochaine? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait là aussi un monde estudiantin plus encore en colère, Frédéric Vidal?
Mais une fois de plus, c'est comme tout l'objectif, c'est que nous mettions des places là où il y a des demandes. Moi, je veux bien qu'on fasse des hypothèses et qu'on démarre avec si. Ça ferait plaisir aux économistes.
En tout cas, ça ferait plaisir à l'UNEF qui considère qu'il manque encore 280 000 places d'étudiants.
Ou alors, je ne sais pas d'où l'UNEF sort ces chiffres. Effectivement, pourquoi 280 000? Pourquoi pas 320 000? Enfin, l'UNEF peut donner les chiffres.
On va chercher le téléphone de l'UNEF. Mais...
Voilà, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 650 000 jeunes qui se préparent à passer leur baccalauréat. Et le nombre de places qui sont en face de ces jeunes est suffisant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est à la marge, rajouter des places là où il y en a encore besoin. Et c'est ce que nous ferons.